Marche pas là-bas? Ah. Je sais pas. Bon, l'essentiel, c'est que vous m'entendez. Si vous ne m'entendez pas, ça va être embêtant. Vous allez bien? Ça va? Super. Eh bien, écoutez, on va continuer notre lecture de l'Épître aux Philippiens. On a commencé ça il y a quelques semaines. Donc, on a reçu de parcourir ce livre ensemble, qui a été découpé en plusieurs péricopes. Et donc voilà, ce matin, on va regarder ensemble du chapitre 1 au verset 27 jusqu'au chapitre 2, verset 18. Donc c'est un passage qui est plus ou moins long, où il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et donc ne soyez pas frustrés, on va survoler certaines choses. Il y aurait tellement à dire, on pourrait s'arrêter presque sur chaque verset et faire un message sur chaque verset. Donc c'est pas évident, mais bon, voilà, on va regarder ce que le Seigneur veut nous dire au travers de ce texte-là. Donc voilà, bref rappel du contexte, Paul, il est en prison, il est emprisonné à Rome parce qu'il est témoin de Christ. Et il écrit une lettre à ses frères, à ses amis de l'église de Philippe, qui est une colonie romaine et la ville principale de Macédoine. Si vous vous souvenez, l'église qu'il a fondée après avoir été appelé en Macédoine au travers d'une vision. Voilà, il voulait aller quelque part et puis le Seigneur l'a interpellé. Et donc, comme nous l'ont rappelé Farid et David, lors de leur précédent message, le ton de cette lettre est empreint d'amour et d'amitié. C'est une lettre d'un ami à un groupe d'amis. La joie y domine. La joie y est omniprésente. Ce que je vous propose de faire, c'est qu'on va commencer par lire les versets 27 à 30. Alors, je suis désolé, j'avais préparé un diaporama et j'ai oublié la clé USB à la maison. Mais c'est pas grave, je suis sûr que vous avez vos Bibles, vos smartphones avec les Bibles online, et vous pourrez suivre avec moi la lecture. Non, mais c'est vrai, en plus, un diaporama, pour une fois. Voilà, on prend à partir du verset 27. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme, dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement intimider par les adversaires. C'est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui. En soutenant le même combat que vous m'avez vu livrer et que vous l'apprenez, je livre encore maintenant. On va s'arrêter là pour l'instant. Et puis on continuera par la suite. Il y a une chose qui m'a frappé en lisant ce premier paragraphe, c'est que Paul utilise un vocabulaire assez particulier, un vocabulaire, j'aurais tendance à dire, de pas militaire, mais de combat, comme s'il y avait une guerre. On a ce mot combattant, on a ce mot adversaire, on a ce mot souffrir, on a à nouveau ce mot combat. En quelque sorte, il exhorte les chrétiens de Philippe à ne pas déserter le champ de bataille, à ne pas être divisés sur leur mission, mais de combattre pour la foi de l'Évangile, avec courage, sans se laisser intimider, sans se laisser effrayer par les adversaires, tout en considérant comme une grâce le privilège de connaître Christ, ça c'est vraiment super, et aussi de pouvoir souffrir pour lui. Et comme c'était une ancienne colonie romaine, sans doute que ça parle particulièrement aux chrétiens qui sont à Philippe. Certains frères, à cette époque, étaient persécutés pour leur foi, et cela devait susciter des questions, des craintes au sein des communautés chrétiennes. Et pour Paul, vivre selon l'Évangile, ça coûte. Ça implique que vous vous y employiez chaque jour. Ça implique que vous preniez des décisions chaque jour. C'est un choix. Et il emploie un mot fort. Il dit « combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile ». C'est à l'opposé de « je me laisse porter ». Il y a cette notion de « je fais le choix, j'avance » et il y a ce mot « combattant ». Combattant, je retrousse mes manches. D'une même âme pour la foi de l'Évangile. Alors j'ai envie de reposer la question ce matin, une question évidente sans doute, mais bon, j'aimerais quand même vous la poser. Qu'est-ce que l'Évangile? Qu'est-ce qui mérite que nous nous battions, que nous combattions pour ça? Alors, qu'est-ce que l'Évangile? Une bonne nouvelle. Amen. Une bonne nouvelle. Isaïe 52, verset 7 nous dit « qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds du messager de bonne nouvelle qui publie la paix, du messager de très bonne nouvelle qui publie le salut, qui dit à Sion, ton Dieu règne. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 1, versets 14 et 15, Jésus nous dit, enfin il est écrit, pardon, « Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée. Il prêchait la bonne nouvelle de Dieu et disait, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Et un peu plus loin, « Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » 1 Corinthiens 15, versets 1 à 5, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme et par lequel aussi vous êtes sauvés. Si vous le retenez dans les termes que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et il a été vu par Céphas, puis par les douze. » L'évangile de Christ est un plan de salut, on l'a lu. C'est un message. Et ce message, il est annoncé. Ce message, il est transmis. Ce message, il doit être cru. Ce message, il doit être reçu. Et on doit y demeurer ferme. Et ce message, il sauve. Il sauve. Il y a eu deux images qui ont été données ce matin. Cette image de cette valise qu'on garde avec soi, que cette personne garde avec soi, mais il y avait cette invitation à poser cette valise au pied de Jésus et à lui laisser s'en occuper. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait avec notre péché ? Il nous demande de venir à lui, de demander pardon, de poser notre valise, de poser notre fardeau à la croix, et c'est lui qui s'en charge. La dette, celle-là nous a été ce matin, a été payée. Une dette qui était impossible à rembourser, elle a été payée par Jésus. Et c'est ça, ce message de la bonne nouvelle, c'est ça le plan du salut. C'est ça, cette chose extraordinaire qui mérite qu'on se retrousse les manches, qu'on se mette en marche et qu'on annonce et qu'on se batte pour ça. Et Paul exhorte les Philippiens, et je pense qu'au travers des Philippiens, il nous exhorte aussi à demeurer fermes dans un même esprit, à combattre d'une même âme pour la foi de l'Évangile. En tant que communauté, nous devons avancer dans la même direction, avec ce même objectif, la foi de l'Évangile. Alors vous me direz peut-être, mais Pierre, combattre, c'est peut-être un peu fort. Ils étaient persécutés, nous ne le sommes pas vraiment. On n'a pas à combattre pour cela. Et vous n'auriez pas forcément tort, hein ? Mais raison de plus alors. J'aurais envie de me provoquer, de nous provoquer un petit peu. Pourquoi ne témoignons-nous pas davantage ? Pourquoi ne partageons-nous pas davantage l'évangile de Christ autour de nous ? Ou peut-être est-ce parce que nous ne sommes pas, assez combattants pour l'évangile de Christ que nous avons que si peu, voire pas du tout d'adversaires ? Je pense que l'exhortation de Paul aux Philippiens, elle est aussi pour nous ce matin. Paul, il nous dit de ne pas avoir peur des adversaires. Et parfois, on peut avoir de la crainte quand il s'agit de témoigner, d'annoncer cette bonne nouvelle. Et il nous donne deux raisons à cela. Deux cadeaux que Dieu nous a donnés gratuitement. Le premier, c'est de croire en Christ. Ça, c'est quelque chose que je veux bien recevoir avec joie et avec reconnaissance, et le deuxième, de souffrir pour lui. Au verset 29, il nous est dit, « Car il vous a été fait la grâce, il vous a été fait la grâce, non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui. » Littéralement, votre foi dans l'adversité et votre souffrance sont des dons de Dieu. Et je dois dire que je n'avais pas vraiment encore vu ça sous cet angle, pas vraiment encore compris cela. Ce qu'on comprend avec ce verset, c'est que les adversaires dont Paul parle sont dans la main de Dieu. Leur opposition, quelque part, est un don de Dieu. Dieu va se servir de cela, et c'est lui qui est en contrôle de tout. Et sa foi aussi est dans la main de Dieu, et elle est aussi un don. C'est ce qui rend Paul si courageux, confiant et heureux alors qu'il est en prison. Il sait que sa foi est un don de Dieu et que Dieu lui permet, que Dieu permet aussi à ses adversaires d'agir contre lui, mais pas au-delà de ce qu'il permettra. C'est Dieu qui est en contrôle de tout. Et ce que je trouve très beau aussi, c'est qu'il est écrit que c'est une preuve de perdition pour ses adversaires, En s'attaquant au message de l'Évangile, ils rejettent le message du Christ et en ça, ils sont perdus. Mais pour Paul, pour lui, c'est aussi une preuve de salut. Il a été trouvé digne de souffrir pour Christ. C'est une source de joie pour Paul. C'est une preuve de salut, nous dit l'Écriture. C'est réel. C'est quelque chose de réel. David nous a encouragé la dernière fois à regarder ce que Dieu fait dans l'épreuve. Et Paul, il a continué d'annoncer l'Évangile, malgré le fait qu'il était en prison. Il a pu toucher des personnes inespérées, des personnes de haut rang, et a ainsi pu mettre l'Évangile de la Bonne Nouvelle sur le devant de la scène. Si on regarde un peu plus loin en Philippiens, chapitre 4, versets 21 et 22, il termine sa lettre en disant « Saluez tous les saints en Christ Jésus » et il dit « Les frères qui sont avec moi vous saluent, tous les saints vous saluent, principalement ceux de la maison de César. » Et cela a encouragé les autres chrétiens. Philippiens 1, versets 12 à 14, « Je veux que vous le sachiez, frères, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, il est devenu manifeste que c'est pour Christ que je suis dans les chaînes. La plupart des frères confiants dans le Seigneur en raison de ces chaînes, de mes chaînes, ont beaucoup plus de hardiesse pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. » Ça a encouragé aussi les autres qui étaient autour de lui. Et ça m'a fait penser à cette image qui a été donnée ce matin de ce coucher de soleil, où il y a plusieurs niveaux, des hauts, des bas, il y a des moments plus difficiles, des moments plus faciles, et le Seigneur qui a encouragé à prendre du recul et à regarder avec sa perspective à lui, et d'essayer d'être attentif à ce qu'il est en train de faire et de lui faire confiance dans la situation dans laquelle on se trouve. Et Paul, il dit « Ne craignez pas, vos adversaires ne pourront pas faire plus que ce que Dieu accorde, et il vous donnera la foi dont vous aurez besoin. Ces promesses sont acquises par le sang de Christ, versé à la croix pour son peuple. Nous sommes citoyens de son royaume, et une place nous est préparée. C'est une promesse éternelle que rien ni personne ne pourra nous ôter, et c'est là où est notre trésor, dans la vie à venir, dans la vie éternelle. » Je vous invite à reprendre vos Bibles et on va continuer de lire au chapitre 2 et on va lire les versets 1 au verset 11. S'il y a donc quelques consolations en Christ, s'il y a quelques encouragements dans l'amour, s'il y a quelque communion de l'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, mettez le comble à ma joie, afin d'avoir une même pensée. Ayez un même amour, une même âme, une seule pensée. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus, lui dont la condition était celle de Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Waouh ! Extra ce texte. Paul se réjouit que les Philippiens aient trouvé un réconfort en Christ, un encouragement dans l'amour, une communion entre eux par l'esprit, de la bonté, de l'affection les uns pour les autres. Mais il y a quelque chose de plus, nécessaire pour que sa joie, que la joie de Paul soit complète. Il nous est dit une même pensée, une même sagesse. Dans le grec, pensée, phronéo, c'est avoir de la compréhension, être sage, être du même esprit, c'est-à-dire convenir ensemble, aimer la même chose, avoir les mêmes vues, être harmonieux. Je suis certain que la plupart d'entre nous faisons du mieux que nous pouvons pour vivre l'Évangile dans tous les domaines de nos vies. Et c'était le cas pour les Philippiens. Et je pense, du moins j'espère, que Paul, s'il nous écrivait une lettre, pourrait dire la même chose en nous regardant. Il y a de la bonté, il y a de l'affection les uns pour les autres, il y a une communion de l'esprit. Vous avez trouvé un réconfort en Christ, une sécurité en Christ. Mais Paul insiste sur un point, une unité de pensée, de sagesse qui s'obtient par un même amour, une même âme, une même pensée. Avoir une même pensée, alors vous allez me dire, j'enfonce sans doute une porte ouverte, ne s'obtient pas au travers d'un accomplissement solitaire, mais au travers d'un accomplissement collectif et relationnel. Avoir une même pensée, si on veut avoir une même pensée, une même sagesse, on ne pourra pas le faire chacun de manière solitaire, mais c'est ensemble. Et c'est dans la relation avec les uns et les autres qu'on va construire cela. Et au verset 4, Paul nous dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ce qui a été traduit par intérêt dans ce verset est plus littéralement ton propre quelque chose ou le quelque chose de l'autre. Dans la version Darby, il est dit « Chacun ne regardant pas à ce qui est à lui, mais chacun aussi à ce qui est aux autres. » Ton propre quelque chose, c'est quelque chose de plus ouvert, c'est quelque chose de beaucoup plus large. Et si on paraphrasait, par exemple, on pourrait dire que chacun de vous ne s'occupe pas seulement de sa propre famille, que chacun de vous ne s'occupe pas seulement de ses propres biens, de ses propres finances, de sa propre santé, de sa propre réputation, de sa propre éducation, de son propre succès ou de son propre bonheur. Et on pourrait étendre la liste. Ne vous contentez pas seulement de vous occuper de cela, mais occupez-vous aussi de la famille, des biens, des finances, de la santé, de la réputation, de l'éducation, du succès, du bonheur des autres. C'est une autre manière de dire, en quelque sorte, ces paroles de Jésus qui nous dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Et ça ajoute un comble à la joie de Paul. Et cela devrait aussi ajouter un comble à notre propre joie de rendre les autres joyeux, heureux. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Quelque chose qui n'est pas toujours évident à faire, mais ça doit être un guide. Et la clé pour vivre cela, elle est au verset qui est juste avant, au verset 3. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Quand Paul dit estimer les autres supérieurs, il n'est pas question de comparer nos compétences, nos aptitudes à faire des choses. On a tous reçu des dons différents, des capacités différentes, propres à faire certaines choses, mieux que les autres. Mais en fait, c'est de trouver l'autre digne de notre aide et de nos encouragements. Et cela passe par l'humilité. L'humilité qui est de s'abaisser. Les questions de petitesse. Paul y dit dans Romains 1, au verset 14, « Je suis redevable, en fait, aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. De là, mon vif désir de vous annoncer l'Évangile et à vous aussi qui êtes à Rome. » Il se considérait redevable envers eux, alors qu'eux-mêmes ne lui étaient pas redevables. Et on pourrait se poser la question, mais pourquoi devrions-nous toujours rendre service aux autres plutôt que ce soit eux qui nous rendent service? Pourquoi, en tant que chrétien, on est appelé à faire ce genre de choses? Parce que Jésus. Il y a cette hymne centrale dans ce passage, même dans toute cette épître, je pense, qui est décrit de façon poétique, l'abaissement de Christ, quelque chose de vraiment super, et on le chante dans plein de nos chants. Mais c'est quelque chose de clé et de central, je pense, dans tout l'épître aux Philippiens. Parce que Christ, parce que Jésus, parce que lui, de grand qu'il était, il s'est abaissé jusqu'à nous. Parce que lui qui est Dieu, il est venu servir. Il est venu laver les pieds de ses disciples. Parce que lui, qui était de condition divine, s'est fait esclave, s'est fait homme, s'est humilié jusqu'à la mort. Parce qu'il nous a aimés, parce qu'il est mort pour nous, parce qu'il nous a pardonnés, parce qu'il nous a acceptés, parce qu'il nous a justifiés, nous a donné la vie éternelle alors que nous, il ne nous devait rien du tout. Il nous a trouvés dignes de son service alors que nous ne l'étions pas. Il a non seulement pensé à ses propres intérêts, mais aussi aux nôtres, parce qu'il s'est abaissé. Et quelque sorte, je pousse un petit peu exprès, mais il nous a considérés plus grands que lui-même, si j'ose dire. Dans l'évangile de Luc, il dit à ses disciples, car qui est le plus grand ? Celui qui est à table ou celui qui sert ? N'est-ce pas celui qui est à table ? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. De Corinthiens 8, verset 9, nous dit « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que sa pauvreté, que par sa pauvreté vous soyez enrichis. » C'est là que doit être notre source, la source de notre humilité et la grâce de pouvoir se servir les uns les autres. Quand nous trouvons difficile de nous mettre au service de Christ, au service de l'autre, j'aimerais dire « souvenons-nous de Jésus ». Souvenons-nous de Jésus. Quelque part, Paul, il nous donne un référentiel qui est tellement beau. J'avais cette image en préparant ce message d'une balance où, vous savez, on met des poids, il y a des poids étalons pour peser les choses. Et vraiment, voilà cette pensée dans nos vies. Quand on veut vivre pour l'Évangile, quand on veut, comme nous l'exhorte Paul, retrousser nos manches, et annoncer la bonne nouvelle du salut, suivre le modèle de Jésus. Cette valeur étalon, ça doit être Christ. Et Christ, lui, s'est abaissé. Et il est venu servir. On continue, les versets 12 à 18. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi avec crainte et tremblement, mettez votre salut en action, non seulement comme si j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. Faites tout sans murmure ni discussion, pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans reproche au milieu d'une génération corrompue et perverse, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de la vie. Ce sera mon sujet de gloire au jour du Christ de n'avoir pas couru ni peiné en vain. Mais même si je sers de libation en plus du sacrifice et de l'offrande de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. Le salut que nous avons reçu doit être vu. Le salut que nous avons reçu doit être vu. Nous devons briller comme des flambeaux dans le monde en portant la parole de vie. Et il doit être démontré par nos actes. Nous devons nous comporter et agir différemment dans un monde de plus en plus corrompu et perverse, nous dit la parole. Guidé par la pensée qui était en Christ Jésus. Et c'est ensemble que nous sommes appelés à le faire, en suivant le modèle de Jésus, comme Paul, et puis si vous lisez la suite de cette lettre, vous le verrez, comme Timothée, comme Épaphrodite. Jésus est allé jusqu'à la mort sur la croix, et c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et c'est aussi une promesse pour nous. En effet, quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. C'est un encouragement à vivre selon l'Évangile. Et comme David l'a dit il y a 15 jours, au-delà des histoires de nos vies, il y a une histoire que Dieu écrit de manière parfaite, une œuvre parfaite, une perspective qui est en Christ. La joie de Paul, dans sa course pour l'annonce de l'Évangile, était d'être trouvé digne de souffrir pour Christ, pour le salut, pour l'encouragement et pour la croissance de beaucoup, des communautés avec lesquelles il était aussi en relation. Il était prêt à mourir pour cela, à sacrifier sa vie pour cela. Et ce sera son sujet de gloire au jour du Christ, de n'avoir parcouru ni peiné en vain. Je pense que ce texte est vraiment un encouragement pour chacun d'entre nous et nous pose cette question, êtes-vous prêt à avoir la pensée qui était en Christ Jésus et à sacrifier vos vies pour l'évangile de Jésus-Christ ? Et j'aimerais nous laisser cette question. On a chanté ce refrain tout à l'heure, « Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter ? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ?» Il y aura de l'opposition, c'est certain. Il y aura de l'opposition. Le monde est ce qu'il est, et la décadence va grandissante, et la rébellion contre Dieu va croissante, et pourtant on est appelé à être des lumières dans ce monde. Et Paul et Jésus, ils ont été très clairs avec ça. Dans toutes les Écritures, on a été sauvés aussi pour sauver. On a été missionné. Jésus nous a donné une mission d'aller, d'annoncer cette bonne nouvelle, de faire des nations des disciples, de baptiser. Et ça coûte, et ça nécessite qu'on trouve le manche. Et ce qui est super, c'est qu'on le fait dans l'Église. Mais je pense qu'on peut passer, après avoir mis la première, on peut passer la seconde maintenant et commencer à aller encore plus fort, plus vite. Ça nous l'a été rappelé dans plusieurs paroles ces dernières semaines, il y a une moisson qui est là. Il y a un peuple qui est désespérément en souffrance et qui a besoin d'un sauveur, qui a besoin de cette bonne nouvelle, qui a besoin d'entendre ce message. Et Paul, il nous dit, il nous exhorte ce matin, Dieu nous exhorte ce matin au travers de ce texte à ne pas craindre l'adversaire. L'adversaire, il est dans la main de Dieu. Et quelque part, c'est Dieu qui s'en charge, c'est Dieu qui s'en occupe. Ce que Dieu nous demande, c'est d'aller et d'ouvrir notre bouche, d'annoncer cette bonne nouvelle à notre famille, à nos voisins, à nos collègues de travail, aux personnes qu'on croise dans la rue, à l'université, à l'école, partout où Dieu nous envoie, en tout temps, en chaque circonstance. Il n'y a pas de moment propice et de moment pas propice. On peut être des témoins de Christ partout où l'on est. Même Paul, qui était en prison, y témoignait. Même Paul, qui était en prison, y rayonnait et il a porté du fruit. Et il y a des personnes qui ont eu leur vie transformée et qui sont venues frères et sœurs de cette belle famille de Christ. Donc voilà, c'était un encouragement ce matin au travers de ce texte qu'on a lu. Je vous invite vraiment à le reprendre. Il y a énormément de choses. C'est un aperçu ce matin de ce que nous dit ce texte, mais il y a encore plein d'autres choses qui peuvent nous révéler. Donc si vous avez des groupes de vie ou si vous êtes seul chez vous, vraiment je vous invite à reprendre ces textes, chapitre 1 des versets 27 au chapitre 2 verset 18, et puis à prier chacun et à vous mettre face à Dieu. Et à prendre cette décision, à faire ce choix de dire « Oui Seigneur, j'ai choisi d'être ton disciple, j'ai choisi de te donner ma vie, mais je veux encore continuer. Je veux te faire confiance pour ce que tu fais au travers de moi et je veux oser vivre l'Évangile dans tous les aspects de ma vie, oser annoncer cette bonne parole, mais aussi être trouvé digne dans ma vie de cet Évangile, considérer l'autre comme supérieur que moi, et peut-être accepter de sacrifier des choses dans ma vie, accepter de sacrifier peut-être mon temps libre, accepter peut-être de sacrifier mes loisirs à certains moments pour servir mon frère, ma sœur qui a besoin. Amen. Amen. Soyez encouragés.